Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Après l'attaque des positions des FRDC, les collines de Runyonyi et Tchanzu sont passées ce matin sous le contrôle des rebelles du M23. Conséquence, beaucoup d'habitants de la zone ont fui vers Bunagana, d'où ils tentent d'aller en Ouganda voisin. 4 morts, 4 personnes grièvement blessées et 200 maisons brûlées. Bilan de l'incendie tôt ce matin à Isesia, dans les territoires de Chabunda au sud Kivu, à la base. Le mauvais stockage du carburant dans une maison. Notre invité, c'est le directeur général de la Sotexki. Globair Loco affirme que son entreprise est en passe de fermer ses portes à la base, à la baisse de la production. Il parle des stratégies pour sauver cette entreprise. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Noël Mokondo. Au Nord Kivu, les collines de Tchanzu et de Runyonyi sont passées ce matin sous le contrôle des rebelles du M23. Conséquence, selon des sources locales, beaucoup d'habitants ont fui vers Bunagana, d'où ils tentent de traverser la frontière vers l'Ouganda. D'autres sont arrivés au chef-lieu du territoire de Rutshuru, selon la société civile. Le point de la situation avec vous, Gabriel Ouamenya.
Des violents combats entre l'armée loyaliste et ses rebelles présumés du M23 ont doublé d'intensité jusqu'en fin d'après-midi de ce lundi, affirme la société civile de Rutshuru. L'armée loyaliste qui a décroché de Tchanzu et Runyonyi ce matin vers les villages environnants à Rwanguba précisément s'est réorganisée avant de lancer une nouvelle offensive contre les positions tenues actuellement par les M23, affirme le chef de groupement de Djomba et corroboré par Jean-Claude Mbabazé, joint au téléphone.
Oui, les affrontements se poursuivent, donc le FRDC se sont réorganisés et sont en train de faire maintenant un contre-attaque.
Pour l'instant, le bilan parcellaire de ces affrontements fait état d'une femme tuée par une bombe supposée dans le village de Cheya, non loin de Runyonyi, indique le chef de groupement de Djomba. Tous nos efforts jusqu'à présent d'avoir la réaction du porte-parole du secteur opérationnel Sokolade n'aboutissent pas toujours. Pour sa part, la force de la MONUSCO a lancé plusieurs patrouilles vers Bunagana et Tchengerero pour s'assurer de la protection des populations, mais aussi pour protéger les personnes déplacées. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
Des fidèles catholiques de l'archidiocèse de Kisangani, chef-lieu de la Tchopo, ont marché ce lundi pour manifester leur solidarité envers leurs voisins de l'Ituri et d'autres compatriotes en proie aux atrocités à travers la RDC. À l'issue de cette manifestation, ils ont remis au gouverneur intérimaire un mémorandum adressé au président Félix Tshisekedi Tshilombo en vue de restaurer la paix au pays. Des précisions avec le directeur du centre diocésain de la pastorale. Les propos de l'abbé Victor Mbatu ont été recueillis par Jacques Mkongole.
Les déplacés de l'Ituri ont besoin d'une assistance humanitaire et d'un retour sécurisé dans leurs villages respectifs. Les enfants ituriens ont droit d'être scolarisés au même titre que les autres enfants congolais. Les femmes ituriennes ont les mêmes droits que les autres femmes congolaises. Veuillez motiver nos militaires et policiers à leur assurant une honnête et consistante rémunération pour qu'ils garantissent la sécurité de la population, que soient sanctionnés les militaires, policiers et civils qui pratiquent le trafic de munitions et d'armes, s'enrichissant ainsi sur le sang des innocents dans un commerce ignoble et dégradant. Que soit mise une présence de proximité de nos militaires et policiers bien équipés dans les grandes agglomérations des territoires d'Ndjougou et d'Irumu pour faciliter l'accès aux champs et différents mouvements d'affaires. Qu'un mécanisme de sécurité soit renforcé le long de la frontière séparant l'Ituri et le Nord Kivu d'avec la Tchopo pour arrêter la progression des ADF.
Partons maintenant pour le Sud Kivu. 4 morts, 4 personnes grièvement blessées et 200 maisons incendiées. C'est le bilan provisoire de l'incendie survenu tôt ce matin à Isesia, dans le territoire de Shabunda au Sud Kivu, à la base de ce drame. Le mauvais stockage du carburant dans une maison, selon l'administrateur du territoire, à Bukavu, Jean Kassami.
Les sources de la société civile parlent de 5 morts et de 5 blessés, tandis que l'administrateur de territoire lui fait mention de 4 morts, 4 blessés et de 200 maisons parties en fumée. Kachombana Bin Saleh signale que le feu continue à s'étendre dans un milieu où il n'existe aucun véhicule anti-incendie. L'administrateur appelle les humanitaires au secours et il demande aux administrés de ne jamais conserver les produits inflammables à l'intérieur de leur maison d'habitation.
Les dispositions, nous sommes dans une situation telle que nous n'avons pas des anti-incendies. La MONUSCO pouvait intervenir, mais nous sommes très loin. À plus de 100 km, la MONUSCO est au chef-lieu du territoire. Donc il faut que peut-être Bukavu intervienne pour sauver les vies humaines et également les maisons qui continuent à être incendiées.
Isesia est une localité perdue dans la vaste forêt du territoire de Shabunda, à 100 km du chef-lieu, dans la chefferie Bakissi, en groupement de Bamugouba Sud. C'est un centre qui compte au moins 1000 habitants, selon l'administrateur. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Pendant ces temps, à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, la source de captage d'eau de Lukelenge exploitée par la régie des eaux est menacée par les creuseurs artisanaux de diamants. Cette source produit plus de 14 000 mètres cubes d'eau par heure. Le directeur provincial de la régie des eaux redoute que la ville de Mbujimayi ne soit privée d'eau potable. Didier Mboudilelo demande par conséquent aux autorités de sécuriser ce site. Il s'est confié à la radio Fraternité Buenamuntu.
Un gros danger, notre site de captage à Lukelenge, là d'où nous tirons de l'eau, là où la source généreuse peut nous donner jusqu'à 4 mètres cubes par seconde, c'est-à-dire 14400 mètres cubes par heure, au-delà des besoins de la ville. Maintenant là, je vous dis qu'il y a un danger là-bas. Il y a des exploitants clandestins, des exploitants miniers, qui sont en train de chercher un diamant juste là où il y a notre digue. La terre est étendue, mais on ne comprend pas comment ils viennent de choisir seulement notre site pour aller chercher le diamant. Et maintenant donc, notre digue est en danger. Avec leur drague motorisés, ils font les galeries qui, si ces galeries atteignent le bassin captant, eh bien toute l'eau qu'on retient là-bas pour être pompée va se retrouver dans la rivière. Les diamants, ils l'auront, ils mettront en poche pour eux. Mais l'eau qui est là, c'est pour toute la ville. C'est pour 3 500 000 habitants. Et donc là, vraiment, nous avons déjà saisi beaucoup d'autorités. Il y a même déjà la police sur site. La dernière fois, notre avocat conseiller des amis là-bas, entre 1h du matin et 4h du matin, et a suivi ces gens en train de travailler. Donc vraiment, c'est un problème. Nous ne sommes pas pour sécuriser comme ça, on préserve l'existant, qu'on préserve la ressource. Parce que si cette ressource disparaît, tous ces travaux vont venir ici.
Autre nouvelle en plus bref. Ainsi que vous le savez, le Maroc offre son hospitalité à la RDC demain mardi dans le cadre de la manche retour des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est après le match aller qui s'est soldé vendredi dernier ici à Kinshasa sur un nul d'un but partout. Et puis à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, le comité urbain des enfants plaide pour l'interdiction de la participation des enfants au Paris Foot. Cette requête a été adressée au maire de la ville après des focus groupes qui ont été organisés dans des écoles de la ville où ce comité a constaté, non sans amertume, que la participation des enfants au jeu du hasard est à la base de l'irrégularité à l'école et au manque de révision des cours à domicile. Des précisions avec la présidente de ce comité. Les propos de Madame Marceline Moula ont été recueillis par François Kadima.
Selon l'article 28, alinéa 1, paragraphe 1er de la Convention relative aux droits des enfants, CDE, les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à l'éducation. En outre, l'article 4 de la même convention stipule, les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits qui sont reconnus dans la présente convention. C'est donc sur base de ces dispositions de la CDE, tout en ayant à cœur les différents inconvénients de la participation des enfants aux Jeux de Paris Sport, dont les plus flagrants et l'irrégularité des enfants à l'école, que nous nous voudrions suggérer la prise d'un arrêté urbain à l'endroit des organisateurs des CG pour l'interdiction de la participation des enfants à ces jeux. Si cette décision est renforcée par des sanctions administratives à l'encontre des organisateurs des CG, elle contribuera à la réduction de l'irrégularité des enfants à l'école.
Les étudiants congolais finalistes venus de l'Ukraine et se trouvant actuellement en Pologne et les pré-finalistes sont priés de transmettre leurs coordonnées au plus tard ce lundi à l'ambassade de la RDC à Varsovie. C'est ce qu'annonce le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire en mission en Pologne. Hubert Tetika affirme que le gouvernement congolais se bat pour permettre d'abord à cette catégorie d'être inscrite en Pologne. Il s'occupe aussi des étudiants congolais venus de l'Ukraine. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rongomouchige.
Comme vous le savez, depuis notre dernière intervention sur votre antenne, nous avions entamé des démarches pour l'obtention d'une régularisation des séjours de nos compatriotes en majorité étudiants. À la suite de ces démarches, nous en sommes à demander aux étudiants venus d'Ukraine, notamment, donc dans un premier temps, voulais-je dire, les finalistes et pré-finalistes, donc ceux qui sont en licence, maîtrise et doctorat, de transmettre leurs coordonnées au plus tard ce lundi 28 mars 2022 à notre ambassade à Varsovie. Il s'agit du nom, d'une copie de la carte de séjour, d'une autre copie de la carte d'étudiant, la plus récente, les cachets d'entrée en Pologne et la preuve du niveau d'études. Ces informations seront transmises au ministère polonais des Affaires étrangères avant évidemment leur transmission au ministère en charge de l'éducation. Si nous disons dans un premier temps, cela voudrait tout simplement dire que nous continuons à nous battre pour tous les étudiants sans exception, car nous nous inscrivons dans une logique de quotas. Nous vous tiendrons informés à cet effet.
Et puis au Maniema, les veuves et orphelins des policiers réclament auprès de Equity Bank leur salaire de 2 mois, selon leurs représentants, après que l'agence de Sophie Bank s'est déclarée incapable de payer. Ils ont été transférés plutôt chez Equity Bank. Depuis, ils sont soumis plutôt à des contrôles qui n'aboutissent pas du tout. Ils réclament par conséquent d'être remis dans leurs droits. On écoute leurs représentants, Pierre Moubaké est au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes venus au studio de la radio dénonçant le comportement qu'affichent les agents de l'Equity Bank de refuser de nous payer notre salaire de 2 mois de nos faits père et mari que nous recevions chaque mois. Nous plaidons l'implication des autorités civiles et paramilitaires car parmi nous il y a des locataires et ceux qui scolarisent les enfants et nos conditions de vie deviennent difficiles. Il s'agit du mois de février ainsi que le mois de mars. Présentement, la banque vient nous payer, mais nous regrettons la banque vient avec deux choses à la fois, les contrôles ainsi que la paix. Nous ne savons plus à quel sens vouer. Nous voulons les contrôles, mais on nous demande beaucoup de documents. Si vous présentez ces documents, on vous demande l'autre. Si vous présentez ceci, on vous demande l'autre. Finalement, on ne sait pas dans quel sens on va aboutir avec ces contrôles. Nous demandons à l'autorité qui s'implique pour que nous retrouvions notre salaire de 2 mois ainsi que nous continuions avec le salaire que nous recevions chaque mois.
Tous nos efforts pour joindre les autorités d'Equity Bank n'ont pas abouti.
Actualité internationale.
Au Mali, des échauffourées ont éclaté entre les signataires de l'accord de paix de 2015 et l'État islamique dans la région des Gao au nord-est du pays. Le bilan fait état des centaines de morts de part et d'autre. Ces incidents ont provoqué du coup le déplacement de beaucoup d'habitants. L'alliance entre Israël, les États-Unis d'Amérique et les pays arabes envoie actuellement un signal fort à l'Iran. Déclaration faite ce lundi après-midi par le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, après une rencontre inédite au sud du pays. Il a mis l'accent particulier sur la nécessité de bâtir une nouvelle architecture basée sur le progrès, la technologie, la tolérance religieuse, la sécurité et le renseignement, ce qui intimide et dissuade nos ennemis communs, selon lui, parmi lesquels il y a l'Iran. Enfin, sachez qu'au 33e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des nouvelles négociations s'ouvrent aujourd'hui en Turquie alors que le président Volodymyr Zelensky dit étudier en profondeur la question de la neutralité de son pays et la nécessité qu'il a de renoncer à toute évacuation des civils par crainte des provocations russes.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur général de la Sotexki, Glombert Loco, affirme que son entreprise est en passe de fermer ses portes suite à la baisse de la production. Il parle des stratégies pour sauver cette entreprise. Il s'entretient à Kisangani avec Jacques Mkongolé.
Monsieur le DG de la Sotexki, bonjour. Quel état des lieux pouvez-vous faire aujourd'hui de votre entreprise?
La Sotexki est en cours de modernisation depuis 2017 et elle a entrepris cette modernisation de son équipement qui est devenu vétuste, investissement. Et les équipements qui ont été mis en place depuis 1974, donc ça fait partie de la technologie des années 70 et 60. Il était très impérieux pour rester compétitif sur le marché, qui est très concurrentiel, de pouvoir moderniser, de suivre la technologie pour rester sur le marché. Donc là, nous avons commencé ce processus, nous avons amorcé depuis 2017, mais ce processus est mis à mal par certaines décisions, notamment la suspension de l'acte juridique qui nous a permis d'accéder aux mesures incitatives prévues par les partenaires stratégiques sur la chaîne de valeur.
En quoi cela vous a été préjudiciable par rapport à la production?
Notre production avec un équipement qui est devenu obsolète est tombée pratiquement de 1,5 million initial à l'époque où on avait créé l'usine, à 261 000 mètres de production au niveau de tissage, parce que nous sommes dans une structure d'intégration verticale complète. Et en 2020, cette production est tombée à 65 000 mètres. Il était très impérieux pour que nous puissions justement renouveler l'équipement et puis remonter la production. Malheureusement, nous avons amené 10 nouveaux métiers qui pouvaient nous aider à remonter la production vers le niveau diagnostiqué en 2016. Mais lorsque nous avons cherché à déposer la demande de mise en consommation au niveau des douanes, nous avons buté à cette réalité de suspension de l'arrêté d'exonération. Pourtant, ces importations ont été effectuées dans les cadres de ces mesures incitatives qui avaient été convenues entre nous et l'État congolais.
Est-ce que la Sotexki produit aujourd'hui? Quelle année de la capacité?
Nous continuons à produire, nous sommes travailler malgré des problèmes, nous essayons de travailler pour nous maintenir dans l'espace commercial congolais, mais la capacité est fort réduite. Comme je disais tout à l'heure, nous étions à 1,5 million initialement lorsqu'on avait créé l'usine. Cette capacité est restée résiduelle au niveau du tissage parce que nous avons une structure intégrée, nous avons la filature qui était à pratiquement 500 000 mètres. Nous avons le tissage qui était à 261 000 mètres et les finissages tenture en pression qui étaient pratiquement à 900 000 mètres. Mais 4 ans après, la filature est restée au même niveau, mais le tissage est à 65 000 mètres. Alors si on doit produire 65 000 mètres mensuels, donc nous sommes à 780 000 mètres annuels. Donc ça représente 4,3% de la capacité installée initialement et pratiquement très peu de pourcentage. Donc on n'est pas rentable, on est en train de travailler en dessous de ce de rentabilité, de sorte que si on ne prend pas en charge tout ce qui est généré pour que nous puissions assurer les fonctionnements.
Vous venez d'acquérir de nouveaux équipements. Quel pourrait en être l'impact au niveau de la production?
Donc si nous mettons en œuvre cet équipement, une fois installé, monté, on transfère la technologie, on forme le personnel. Nous allons remonter cette production qui est aujourd'hui à 65 mm à 211 mm. Et comme c'est un processus qui est graduel, nous pourrons arriver jusqu'à 300 mm. Si on amène encore d'autres machines, parce que le programme est là, le projet est là, nous pourrons arriver à 20 métiers, 30 métiers, et nous pourrons atteindre facilement 500 mm ou même dépasser, parce que l'objectif est d'atteindre 900 mm.
Monsieur le DG, quelle lecture faites-vous de ce dîner d'affaires organisé par l'affaire Kichopo?
J'avais voulu que l'affaire ne soit pas de la Sotexki seule. La Sotexki est implantée dans un ressort territorial qui est la province orientale. C'est donc un patrimoine de la province orientale, pardon, de la province de la Kichopo. Il faut que tout le monde soit au courant parce qu'il y a beaucoup de désinformations autour de ce qui s'est passé à la Sotexki. Alors, j'ai voulu faire passer le message depuis la source, un message vrai, et que chacun puisse comprendre quelle est la problématique et celui qui a une parcelle de pouvoir qui peut agir, qu'il les fasse pour sauver la Sotexki. C'est un patrimoine de la République, particulièrement un patrimoine de la Kichopo. Et nous devons tous responsabilité vis-à-vis de la postérité et nous devons la protéger pour qu'elle continue à jouer son rôle de développement et continue à produire des richesses et des profits taxables.
Et que demandez-vous au gouvernement congolais pour vous aider à relancer la production?
Nous demandons d'abord que l'on puisse respecter les textes qui ont été pris et c'est dans le cadre de ce texte-là que nous avons importé le machine. Au moment où il y a même une décision du Conseil d'État, une ordonnance en référé des suspensions, que cette ordonnance soit exécutée pour permettre à Sotexki de continuer de poursuivre sa modernisation et de continuer à donner des emplois, sinon dans une brève échéance, elle va disparaître.
Monsieur le DG, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, c'était le directeur général de la Sotexki, Glombert Loco, affirme que son entreprise est en passe de fermer ses portes à la suite de la baisse de sa production. Il parle également des stratégies pour sauver cette entreprise. Il est interviewé à Kisangani par Jacques Mukongole. À Kinshasa, il est 18h20. Ce journal est terminé. Merci d'avoir écouté. Élisée Tchikota l'a coordonné avec Alain Irung Mouchige. Retrouvez ce journal sur www.radiocapi.net.